Année sainte 2025, présentation de la bulle du pape François, l'espérance ne déçoit pas, une émission proposée par l'abbé Philippe Beitia, chancelier du diocèse de Bayonne.
Mais sous l'ornité de l'Ascension du Seigneur, le pape François a publié la bulle d'indiction du jubilé 2025, intitulée « Spes non confundit », ce sont des termes de Saint Paul qui signifient que l'espérance ne déçoit pas. Les années saintes sont nées un peu par hasard, ou plutôt dans un premier temps du moins sous l'impulsion du peuple chrétien, plus que de la hiérarchie de l'Église. La première année sainte date de 1300, sous le pape Boniface VIII. À l'occasion de la fin du siècle, une importante arrivée de pèlerins se constatait à Rome. Si on leur demandait le motif de leur voyage, ils répondaient que les papes avaient coutume d'accorder tous les 100 ans une grande indulgence que l'on gagnait par la visite répétée des églises de Rome. Boniface VIII, qui était pape de 1294 à 1303, ordonna de faire des recherches des archives pontificales pour vérifier le bien fondé de cette assertion. On ne retrouva rien, mais on voulut expliquer cette carence, soit par une négligence des scribes de l'époque, soit par les luttes intestines qui avaient troublé Rome et auraient occasionné la perte de certaines archives. Sans pousser plus avant les investigations, Boniface VIII, après avoir pris l'avis des cardinaux, publia le 22 février, fête de la chaire de Saint-Pierre, de l'an 1300, la bulle Antiquorum, qui donnait satisfaction aux vœux des pèlerins. Après avoir confirmé les indulgences précédemment attachées à la visite de la basilique Saint-Pierre, il accordait, pendant toute l'année, à dater de Noël 1299, aux personnes qui visiteraient les deux basiliques des saints apôtres Pierre et Paul avec un cœur contrit et qui se confesseraient le pardon le plus large possible de tous leurs péchés. Outre le repentir des fautes, il fallait donc visiter les basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul. La nouvelle colportée à travers la chrétienté eut pour effet d'accroître le nombre des pèlerins qui arrivèrent de tous les pays. La bulle Antiquorum avait prévu que l'indulgence serait accordée de nouveau au bout d'un siècle. Mais, dès avant 1350, des demandes de fidèles, entre autres de Sainte Brigitte et de sa fille Sainte Catherine de Suède, arrivèrent en Avignon où résidait le pape Clément VI, pape de 1342 à 1352, pour le supplier de réduire à 50 ans le rythme des jubilés. Le pape acquiesçant raison de la brièveté de la vie humaine. Mais il ajouta aux visites des deux basiliques de Saint-Pierre et Saint-Paul celle de Saint-Jean de Latran. Par la suite, on devait ajouter Sainte-Marie Majeure. Les jubilés devaient se suivre de quart de siècle en quart de siècle, à part quelques exceptions. Dont ce jubilé de 2025. La bulle du pape François pour titre « Spes non confundit ». L'espérance ne déçoit pas. C'est sous le signe de l'espérance et de ce qu'elle implique qu'il veut mettre l'année jubilaire 2025. Le pape souligne que tout le monde espère. L'espérance est contenue dans le cœur de chaque personne comme un désir et une attente du bien, bien qu'en ne sachant pas de quoi demain sera fait. L'imprévisibilité de l'avenir suscite des sentiments parfois contradictoires. De la confiance à la peur, de la sérénité au découragement, de la certitude au doute. Nous rencontrons souvent des personnes découragées qui regardent l'avenir avec scepticisme et pessimisme, comme si rien ne pouvait leur apporter le bonheur. Puisse le jubilé être pour chacun l'occasion de ranimer l'espérance, dit le Saint-Père. La parole de Dieu nous aide à en trouver les raisons, Laissons-nous guider par ce que l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Rome. Et il cite saint Paul. Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'espérance, en effet, naît de l'amour et se fonde sur l'amour qui jaillit du cœur de Jésus transpercé sur la croix, commente le pape François. Et toujours en citant saint Paul, « En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. » Et sa vie se manifeste dans notre vie de foi, qui commence avec le baptême, se développe dans la docilité à la grâce de Dieu, animée en conséquence par l'espérance toujours renouvelée et rendue inébranlable par l'action de l'Esprit-Saint. En effet, l'Esprit-Saint qui, par sa présence permanente, sur le chemin de l'Église, irradie la lumière de l'espérance sur les croyants. Il la maintient allumée comme une torche qui ne s'éteint jamais, pour donner soutien et vigueur à notre vie. L'espérance chrétienne, en effet, ne trompe ni ne déçoit, parce qu'elle est fondée sur la certitude que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi l'espérance ne cède pas devant les difficultés. Elle est fondée sur la foi et nourrie par la charité. Elle permet ainsi d'avancer dans la vie. Saint Paul est très réaliste. Il sait que la vie est faite de joie et de peine, que l'amour est mis à l'épreuve lorsqu'augmentent les difficultés et que l'espérance semble disparaître devant la souffrance. Pour l'apôtre, la tribulation et la souffrance sont les conditions typiques de ceux qui annoncent l'Évangile dans des contextes d'incompréhension et de persécution. On perçoit, dans ces situations, une lumière dans l'obscurité. On découvre comment l'évangélisation est soutenue par la force qui découle de la croix et de la résurrection du Christ. Cela conduit à développer une vertu étroitement liée à l'espérance, la patience. De plus, à l'ère d'Internet, où l'espace et le temps sont dominés par le « ici et maintenant », la patience n'est pas la bienvenue. Nous étions encore capables de regarder la création avec émerveillement, nous pourrions comprendre à quel point la patience est décisive. Attendre l'alternance des saisons avec leurs fruits, observer la vie des animaux et les cycles de leur développement, avoir le regard simple de saint François qui, dans son Cantique des créatures, composé il y a exactement 800 ans, percevait la création comme une grande famille et appelait le soleil frère et la lune sœur. Redécouvrir la patience fait beaucoup de bien à soi-même et aux autres. Saint Paul recourt souvent à la patience pour souligner l'importance de la persévérance et de la confiance en ce que Dieu nous a promis, mais il témoigne avant tout que Dieu est patient avec nous, lui qui est le Dieu de la persévérance et du réconfort. La patience, qui est aussi le fruit de l'Esprit-Saint, maintient vivante l'espérance et la consolide en tant que vertu et style de vie. Apprenons donc à souvent demander la grâce de la patience, qui est fille de l'espérance et en même temps la soutient. De cet entrelacement entre espérance et patience apparaît clairement le fait que la vie chrétienne est un chemin qui a besoin de moments forts pour nourrir et fortifier l'espérance, compagnie irremplaçable qui laisse entrevoir le but, la rencontre avec le Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas oublier en effet les diverses formes à travers lesquelles la grâce du pardon fut abondamment répandue sur le saint peuple fidèle de Dieu. Père va évoquer des indulgences données à travers l'histoire de l'Église, le grand pardon de Célestin V, de Collegio à L'Aquila en 1294, l'indulgence de la portion cul accordée à saint François, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle de Calixte II en 1122. Ce n'est pas un hasard si le pèlerinage est un élément fondamental de tout événement jubilaire, écrit-il. Le mettre en marche est caractéristique de celui qui va à la recherche du sens de la vie. Le pèlerinage à pied est très propice à la redécouverte de la valeur du silence, de l'effort, de l'essentiel. Cette année encore, les pèlerins de l'espérance ne manqueront pas d'emprunter des chemins anciens et modernes pour vivre intensément l'expérience jubilaire. Transiter d'un pays à l'autre, comme si les frontières étaient abolies, passer d'une ville à une autre dans la contemplation de la création et des œuvres d'art permettra de tirer profit des expériences et des cultures diverses pour porter en soi la beauté qui, harmonisée par la prière, conduit à remercier Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies. Les églises jubilaires le long des itinéraires et à Rome seront des oasis de spiritualité où l'on pourra se rafraîchir sur le chemin de la foi et s'abreuver aux sources de l'espérance, avant tout en s'approchant du sacrement de la réconciliation, point de départ irremplaçable d'un véritable chemin de conversion. Dans les églises particulières, dans les diocèses, on veillera de manière spéciale à la préparation des prêtres et des fidèles aux confessions et à l'accessibilité du sacrement sous forme individuelle. Le temps est venu, écrivait le pape François, d'un nouveau jubilé, au cours duquel la porte sainte sera à nouveau grande ouverte pour offrir l'expérience vivante de l'amour de Dieu qui suscite dans le cœur l'espérance certaine du salut dans le Christ. Le Saint-Père nous partage des signes d'espérance. On pourrait rapprocher ce qu'il dit de « J'ai fait un rêve » de Martin Luther King. Dans la bulle d'indiction, François nous partage ses préoccupations et ses aspirations. Il désire que l'Église les fasse siens, il les voit dans l'optique des signes des temps. La communauté chrétienne, écrit le pape, doit être la première à soutenir une alliance sociale pour l'espérance. Au cours de l'année jubilaire, nous serons appelés à être des signes tangibles d'espérance pour de nombreux frères et sœurs qui vivent dans des conditions de détresse. Le premier signe d'espérance doit se traduire par la paix pour le monde plongé, une fois encore, dans la tragédie de la guerre. Jubilé doit rappeler que ceux qui se font artisans de paix pourront être appelés fils de Dieu. L'exigence de la paix interpelle tout le monde et impose de poursuivre des projets concrets. La diplomatie doit continuer à s'engager à créer, avec courage et créativité, des espaces de négociation visant à une paix durable. Regarder l'avenir avec espérance, c'est aussi avoir une vision de la vie pleine d'enthousiasme à transmettre. Nous devons malheureusement constater avec tristesse que, dans de nombreuses situations, cette vision fait défaut. La première conséquence est la perte du désir de transmettre la vie. L'ouverture à la vie, avec une maternité et une paternité responsables, est le projet que le Créateur a inscrit dans le cœur et dans le corps des hommes et des femmes. Une mission que le Seigneur confie aux époux et à leur amour. Il est urgent que, outre l'engagement législatif des États, ils aient le soutien convaincu des communautés croyantes et de la communauté civile dans toutes ses composantes. Je pense aux détenus, note le pape, qui, privés de liberté, éprouvent chaque jour en plus de la dureté de la réclusion, le vide affectif, les restrictions imposées et, dans de nombreux cas, le manque de respect. Je propose au gouvernement, poursuit-il, de prendre en cette année jubilaire des initiatives qui redonnent espoir. Des formes d'amnistie ou de remise de peine visant à aider les personnes à retrouver confiance en elles-mêmes et dans la société. Des parcours de réinsertion dans la communauté auxquels correspondent un engagement concret dans le respect des lois. Des signes d'espérance devront être offerts aux malades, qu'ils soient à la maison ou à l'hôpital. Leurs souffrances doivent pouvoir trouver un soulagement dans la proximité de personnes qui les visitent et dans l'affection qu'ils reçoivent. Les œuvres de miséricorde sont aussi des œuvres d'espérance qui réveillent dans les cœurs des sentiments de gratitude. Et que la gratitude atteigne aussi tous les professionnels de la santé. Ceux qui, en leur personne même, représentent l'espérance ont également besoin de signes d'espérance, les jeunes. Malheureusement, ces derniers voient souvent leurs rêves s'effondrer. C'est pourquoi le jubilé doit être dans l'Église l'occasion d'un élan à leur égard, avec une passion renouvelée, dit le pape, prenons soin des jeunes, des étudiants, des fiancés, des jeunes générations. La communauté chrétienne doit toujours être prête à défendre le droit des plus faibles. Elle ouvre toutes grandes les portes de l'accueil avec générosité, afin que l'espérance d'une vie meilleure ne manque jamais à personne. Le pape invite aussi à travailler l'alliance envers les générations, notamment avec les personnes âgées, porteuses d'un trésor d'expérience et de sagesse. Une pensée particulière aux grands-pères et aux grands-mères qui représentent la transmission de la foi et de la sagesse de la vie aux générations plus jeunes. Ils doivent être soutenus par la gratitude des enfants et par l'amour des petits-enfants qui trouvent en eux enracinement, compréhension et encouragement. Ceux qui possèdent des richesses doivent être généreux en reconnaissant le visage de leurs frères dans le besoin. Pense en particulier à ceux qui manquent d'eau et de nourriture. La faim est une plaie scandaleuse dans le corps de notre humanité et elle invite chacun à un sursaut de conscience. Je renouvelle mon appel pour qu'avec les ressources financières consacré aux armes et à d'autres dépenses militaires, un fonds mondial soit créé en vue d'éradiquer une bonne fois pour toutes la faim et pour le développement des pays les plus pauvres. Une autre invitation pressante en vue de l'année jubilaire est destinée aux nations les plus riches pour qu'elles reconnaissent la gravité de nombreuses décisions prises et qu'elles se décident à remettre les dettes des pays qui ne pourront jamais les rembourser. C'est plus une question de justice que de magnanimité, aggravée aujourd'hui par une nouvelle forme d'iniquité dont nous avons pris conscience. Cela fera 1700 ans que le premier grand concile œcuménique, le concile de Nicée, qui s'est tenu dans cette ville aujourd'hui en Turquie, entre le 20 mai et le 25 juillet 325, a été célébré. Il, en définitive, a marquer la foi de l'Église en insistant sur le fait que le Christ était réellement Dieu sur le même plan que le Père. L'année jubilaire pourrait être une occasion importante pour concrétiser cette forme synodale que la communauté chrétienne perçoit aujourd'hui comme une expression de plus en plus nécessaire pour mieux répondre à l'urgence de l'évangélisation. Tous les baptisés, chacun avec son charisme et son ministère, co-responsable pour que de multiples signes d'espérance témoignent de la présence de Dieu dans le monde. L'anniversaire du Concile de Nicée invite les chrétiens à s'unir dans la louange et l'action de grâce à la Sainte Trinité, et en particulier à Jésus-Christ, le Fils de Dieu consubstantiel au Père, qui nous a révélé ce mystère d'amour. Mais Nicée représente aussi une invitation à toutes les églises et communautés ecclésiales à poursuivre le chemin vers l'unité visible, à ne pas se lasser de chercher les formes adéquates pour répondre pleinement à la prière de Jésus. Nous devons déborder d'espérance pour témoigner de manière crédible et attrayante de la foi et de l'amour que nous portons dans notre cœur. Que la foi soit joyeuse, la charité enthousiaste, pour que chacun puisse donner ne serait-ce qu'un sourire, un geste d'amitié, un regard fraternel, une écoute sincère, un service gratuit, en sachant que dans l'Esprit de Jésus, cela peut devenir une semence féconde d'espérance pour ceux qui la reçoivent. L'espérance chrétienne trouve dans ces mots un pilier fondamental. L'espérance est en effet la vertu théologale par laquelle nous désirons comme bonheur la vie éternelle. L'indulgence, en effet, permet de découvrir à quel point la miséricorde de Dieu est illimitée. Les indulgences, c'est quelque chose qui n'est pas très bien compris aujourd'hui. Peut-être une petite histoire que nous trouvons chez saint Philippe Néri pourra nous éclairer. Lors du procès de canonisation de saint Philippe Néri, sûrement le saint le plus original du calendrier catholique, une de ses pénitentes, qui avait la langue bien pendue, et donc qui était portée à la médisance, peut-être à la calomnie, raconte qu'un jour qu'elle confessait ces péchés-là, elle reçut donc de Philippe Néri, son confesseur, une pénitence des plus originales. Elle lui dit, vous avez un poulailler ? Oui, oui. Prenez une poule, plumez-la et jetez les plumes au vent, ça sera votre pénitence. Un peu étonné, la pénitente fit ce que le confesseur lui avait dit. La fois d'après, bien sûr, mais elle était revenue à ses errements, à sa médisance, à sa calomnie, et Saint-Philippe Néri lui dit « Appelez-moi ce que je vous ai donné comme pénitence à votre dernière mère, quelque chose d'un peu étrange, de prendre une poule et de la plumer, de jeter les plumes au vent. » Bien, cette fois-ci, comme pénitence, je vous donne de rattraper toutes ces plumes. Mais père, c'est impossible. Eh bien, vous voyez, quand vous êtes médisante, quand vous calomniez, ensuite, vous ne pouvez plus récupérer le mal que vous avez fait. Autrement dit, dans le sacrement de réconciliation et de pénitence, bien sûr que nos péchés sont pardonnés, mais il y a les effets de ces péchés, les injustices, les blessures persistent. L'indulgence pour l'Église, c'est de puiser dans ce trésor spirituel que sont les mérites du Christ, de sa passion, de sa mort, de sa résurrection, dans les mérites de la Vierge Marie et des saints, pour solder, si j'ose dire, cela aussi. Autrement dit, grâce à l'indulgence, eh bien, cela ne nous est plus imputé, la culpabilité, en quelque sorte, de ses conséquences nous est enlevée. Et donc, le pape va souligner que l'indulgence permet de découvrir à quel point la miséricorde de Dieu est illimitée. Ce n'est pas un hasard si dans l'Antiquité, le terme miséricorde était interchangeable avec le terme indulgence, précisément parce que celui-ci entend exprimer la plénitude du pardon de Dieu qui ne connaît pas de limite. La réconciliation sacramentelle n'est pas seulement une belle opportunité spirituelle, mais elle représente une étape décisive, essentielle et indispensable sur le chemin de foi de chaque personne. C'est là que nous permettons au Seigneur de détruire nos péchés, de guérir nos cœurs, de nous élever, de nous étreindre, de nous faire connaître son visage tendre et compatissant. En effet, il n'y a pas de meilleure façon de connaître Dieu que de se laisser réconcilier par lui en savourant son pardon. Ne renonçons donc pas à la confession, mais redécouvrons la beauté du sacrement de la guérison et de la joie, la beauté du pardon des péchés. Nous le savons par expérience personnelle, le péché laisse des traces. Il entraîne des conséquences, non seulement externes, dans la mesure où il s'agit des conséquences du mal commis, mais aussi internes, dans la mesure où tout péché, même véniel, même léger, entraîne un attachement malsain aux créatures qui a besoin de purification, soit ici-bas, soit après la mort, dans l'état qu'on appelle purgatoire. Il reste donc dans notre humanité faible et attirée par le mal des effets résiduels du péché. Ceux-ci sont éliminés par l'indulgence, toujours par la grâce du Christ qui est, comme l'a écrit le pape Paul VI, notre indulgence. L'espérance trouve dans la Mère de Dieu son plus grand témoin. Et au pied de la croix, alors qu'elle voit Jésus innocent souffrir et mourir, bien que traversée d'une immense souffrance, elle répète son oui sans perdre ni l'espérance ni la confiance dans le Seigneur. Elle collaborait de cette façon pour nous à l'accomplissement de ce que son Fils avait dit. La piété populaire continue à invoquer la Sainte Vierge comme Stella Maris, comme étoile de la mer. Un titre qui exprime l'espérance sûre que, dans les vicissitudes orageuses de la vie, la Mère de Dieu vient à notre aide, nous soutient et nous invite à avoir confiance et à continuer d'espérer. route vers le jubilé. Venons à l'Écriture sainte et écoutons ces paroles qui nous sont adressées, tirées de la lettre aux Hébreux. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur. Une invitation forte à ne jamais perdre l'espérance qui nous a été donnée, à nous y agripper en trouvant refuge en Dieu. L'image de l'ancre évoque bien la stabilité et la sécurité que nous possédons au milieu des eaux agitées de la vie, si nous nous en remettons au Seigneur Jésus. Les tempêtes ne pourront jamais l'emporter, parce que nous sommes ancrés dans l'espérance de la grâce qui est capable de nous faire vivre dans le Christ, en triomphant du péché, de la peur et de la mort. Cette espérance bien plus grande que les satisfactions quotidiennes et l'amélioration des conditions de vie, nous porte au-delà des épreuves et nous pousse à marcher sans perdre de vue la grandeur du but auquel nous sommes appelés, la vie du ciel.
Année sainte 2025, présentation de la bulle « L'espérance ne déçoit pas » du pape François. Vous venez de suivre une émission proposée par l'abbé Philippe Beitia, chancelier du diocèse de Bayonne.